Chapitre 8. Neuf fois, en moins de 7 ans depuis la chute de l'autorité royale, la nation avait vu le gouvernail changer de main et le vaisseau de l'État se jeter sur de nouveaux écueils. Cette fois, le pilote inspira généralement plus de confiance. On le jugeait ferme et habile, et son gouvernement se rapprochait d'ailleurs des formes de la stabilité. Le jour où Bonaparte se déclara premier consul et fut reconnu pour tel, il jugea que son règne datait réellement de cette époque et il ne le dissimula point dans l'action intérieure de son gouvernement. On vit le républicanisme perdre chaque jour de sa sombre austérité et les conversions se multiplier en faveur de l'unité du pouvoir. Le consul nous persuadait, et nous nous persuadions volontiers, que cette unité nécessaire dans le gouvernement ne porterait aucune atteinte à l'œuvre républicaine. Et en effet, jusqu'à la bataille de Marengo, les formes de la République subsistèrent. On n'osa pas s'écarter du langage et de l'esprit de ce gouvernement. Bonaparte, premier consul, s'astreignit à ne paraître en effet que le magistrat du peuple et le chef des soldats. Il prit la reine du gouvernement le 25 décembre et son nom fut désormais à la tête des actes publics, innovation inconnue depuis la naissance de la République. Jusqu'alors, les chefs de l'État avaient habité le palais du Luxembourg, nul n'avait encore osé envahir le domicile des rois. Bonaparte, plus hardi, quitte le Luxembourg et vient avec pompe, en grand appareil militaire, occuper le château des Tuileries. Désormais le séjour du premier consul. Le Sénat siégea au Luxembourg et le tribunat au Palais Royal. Cette magnificence plut à la nation, qui s'applaudit d'être représentée d'une manière plus digne d'elle. La splendeur et l'étiquette reprirent une partie de leur empire. Paris vit renaître les cercles, les bals, les fêtes somptueuses. Observateur des convenances, rigide même en fait d'essence publique, Bonaparte, rompant les anciennes liaisons de Joséphine et les siennes mêmes, bannit de son palais les femmes de mœurs décriées ou même suspectes qui avaient figuré dans les cercles les plus brillants et dans les intrigues du Luxembourg sous le règne du Directoire. Les commencements d'un nouveau règne sont presque toujours heureux. Il en fut de même du consulat, signalé par la réforme d'un grand nombre d'abus, par des actes de sagesse et d'humanité, par le système de justice et de modération qu'adoptèrent les consuls. Le rappel d'une partie des députés frappés par les décrets du 19 Fructidor fut un grand acte de sagesse, de fermeté et d'équité. Il en fut de même de la clôture de la liste des émigrés. Les consuls accordèrent la radiation d'un grand nombre de membres distingués de l'Assemblée constituante. J'eus la satisfaction de faire rentrer et rayer de la liste fatale le célèbre Casalès, de même que son ancien collègue Malouet, homme d'un vrai talent et d'une probité intacte. Ainsi que moi, l'ex-constituant Malouet avait professé jadis à l'oratoire et je lui promis une affection extrême. On verra qu'il me paya d'un retour constant et sincère. La réorganisation de l'ordre judiciaire et l'institution des préfectures marquèrent également les commencements heureux du consulat dont se ressentit la composition des nouvelles autorités. Mais il faut le dire, ce tableau consolant fut bientôt rembruni. « Je ne veux pas gouverner en chef débonnaire, me dit un soir Bonaparte. La pacification de l'Ouest ne va pas, il y a trop de licences et de jactances dans les écrits. » Le réveil fut terrible. L'exécution du jeune Toustin, celle du comte de Frotté et de ses compagnons d'armes, la suppression d'une partie des journaux, le style menaçant des dernières proclamations, en glaçant d'effroi les républicains et les royalistes, firent évanouir dans presque toute la France les espérances si douces d'un gouvernement équitable et humain. Je fis sentir au premier consul la nécessité de dissiper ces nuages. Il s'adoucit, gagna les émigrés par des faveurs et des emplois, il rendit les églises au culte catholique, il tint les républicains en minorité ou à l'écart, mais sans les persécuter. Il se déclara le fléau des traitants. toutes les sources du crédit étaient ou taries ou anéanties à l'avènement du consul, par l'effet du désordre, des dilapidations et du gaspillage qui s'étaient glissés dans toutes les branches de l'administration et des revenus publics. Il fallut créer des ressources pour faire face à la guerre et à toutes les parties du service. On emprunta 12 millions au commerce de Paris. On s'assura 24 millions de la vente des domaines de la Maison d'Orange, et enfin on mit en circulation 150 millions de bons de rescription de rachat de rente. En décrétant ces opérations, le premier consul vit combien il lui serait difficile de sortir de la tutelle ruineuse des traitants. Il les avait en horreur. La note suivante, dont il me remit copie plus tard, le prévint et l'aigrit singulièrement contre nos principaux banquiers et fournisseurs. Voici cette note. Les individus ci-après dénommés sont maîtres de la fortune publique. Ils donnent l'impulsion au cours des effets publics et possèdent à eux tous 100 millions de capitaux environ. Ils disposent en outre de 80 millions de crédits, Savoie, Armand Séguin, Vanderberg, Launoy, Collot, Inguerlo, Ouvrard, les frères Michel, Bastide, Marion et Récamier. Les partisans du Suisse Haller ont triomphé parce que ce Suisse, dont le premier consul ne veut pas adopter les plans de finances, a prédit la baisse qui a lieu en ce moment. Bonaparte ne pouvait soutenir l'idée de ces fortunes subites et si colossales. On eût dit qu'il craignait d'y rester asservi. Il les regardait généralement comme les fruits honteux des dilapidations et de l'usure publique. Il n'avait accompli le 18 Brumaire qu'avec l'argent que lui avait prêté Collot, et il en était humilié. Joseph Bonaparte lui-même ne fit l'acquisition de Morfontaine qu'avec les 2 millions que lui prêta Collot. « Oui, disait-il à son frère, vous voulez faire le seigneur avec les écus d'autrui, mais c'est sur moi que tombera tout le poids de l'usure. » J'eus beaucoup de peine, ainsi que le consul Lebrun, à calmer ses emportements contre les banquiers et les fournisseurs, et à détourner les mesures acerbes dont il aurait voulu dès lors les frapper. Il comprenait peu la théorie du crédit public, et l'on voyait qu'il avait un secret penchant à traiter parmi nous la partie des finances dans le système d'Avanie adopté en Égypte, en Turquie et dans tout l'Orient. Il lui fallut pourtant recourir à Vanderberg pour ouvrir la campagne. Il lui confia les fournitures. Ses ombrages s'étendaient sur toutes les parties occultes du gouvernement. C'est toujours moi qu'il chargeait de vérifier ou de contrôler les notes secrètes que les intrigants et les postulants de place ne manquaient pas de lui faire parvenir. Par là, on voit combien mes fonctions étaient délicates. J'étais le seul qui pût corriger ses préventions ou en triompher en mettant chaque jour sous ses yeux, par mes bulletins de police, l'expression de toutes les opinions, de toutes les pensées et le relevé des circonstances secrètes dont la connaissance intéressait la sûreté ou la tranquillité de l'État. J'eus soin, pour ne pas l'effaroucher, de rédiger à part tout ce qui aurait pu le choquer dans les conférences ou les communications avec les 2 autres consuls. Mes rapports avec lui étaient trop fréquents pour ne pas être scabreux, mais je soutins le ton de la vérité et de la franchise, tempéré par le dévouement, et ce dévouement était sincère. Je trouvais dans cet homme unique précisément ce qu'il fallait pour régler et maintenir cette unité de pouvoir dans la puissance exécutive sans laquelle tout serait retombé dans le désordre et le chaos. Mais je le trouvais avec des passions violentes et une disposition naturelle au despotisme qui prenait sa source dans son caractère et dans l'habitude des camps. Je me flattais de lui opposer avec succès la ligne de la prudence et de la raison, et assez souvent, je réussis au-delà de mes espérances. À cette époque, Bonaparte n'avait plus à redouter dans l'intérieur aucune opposition matérielle que celle de quelques bandes royalistes qui, dans les départements de l'Ouest et principalement dans le Morbihan, avaient encore les armes à la main. En Europe, son pouvoir n'était ni aussi affermi ni aussi incontesté. Il sentit parfaitement et à l'avance qu'il ne pourrait jeter de profondes racines que par de nouvelles victoires. Il en était avide. Mais la France sortait d'une crise, ses finances étaient épuisées. Si l'anarchie était vaincue, le royalisme ne l'était point encore, et l'esprit républicain fermentait sourdement en dehors de la sphère du pouvoir. Quant aux armées françaises, malgré leurs avantages récents en Hollande ou en Suisse, elles étaient encore hors d'état de reprendre l'offensive. L'Italie était perdue tout entière, les Apennins n'arrêtaient même plus les soldats de l'Autriche. Que fit Bonaparte? Bien conseillé par son ministre des Affaires étrangères, il mit à profit avec sagacité les passions de l'empereur Paul Ier pour le détacher tout à fait de la coalition. Puis il apparut dans la politique ostensible de l'Europe en mettant au jour sa fameuse lettre au roi d'Angleterre. Elle contenait des ouvertures dans une forme insolite. Le premier consul y vit le double avantage de faire croire à des vues pacifiques de sa part et de persuader à la France, après un refus auquel il s'attendait, qu'il fallait, pour conquérir la paix, objet de tous ses vœux, de l'argent, du fer et des soldats. Quand un jour, au sortir de son conseil privé, il me dit, d'un ton inspiré, qu'il était sûr de reconquérir l'Italie avant 3 mois, je vis d'abord un peu de jactance dans ce propos, et pourtant je fus persuadé. Carnot, appelé depuis peu au ministère de la guerre, s'aperçut comme moi qu'il était une chose que Bonaparte savait par-dessus tout, et cette chose, c'était la science pratique de la guerre. Mais quand Bonaparte m'eut dit positivement qu'il entendait qu'avant son départ pour l'armée, tous les départements de l'Ouest fussent tranquilles et qu'il en eût indiqué les moyens qui coïncidaient avec mes propres vues, je vus que ce n'était pas seulement un guerrier, mais un rusé politique. Je le secondais avec un bonheur dont il me sut gré. Toutefois, nous ne pûmes amener la dissolution de la Ligue royaliste qu'à la faveur d'un grand mobile, la séduction. À cet égard, le curé Bernier et deux vicomtesses nous servirent à souhait en accréditant l'opinion que Bonaparte travaillait pour replacer les Bourbons sur le trône. L'amorce fut telle que le roi lui-même, alors à mi-tour, abusé par ses correspondants de Paris, croyant l'instant favorable pour réclamer sa couronne, fit remettre au consul Lebrun, par l'abbé de Montesquieu, son agent secret, une lettre adressée à Bonaparte, où, dans les termes les plus nobles, il s'efforçait de lui persuader combien il s'honorerait en le replaçant sur le trône de ses aïeux. « Je ne puis rien sur la France sans vous, disait ce prince, et vous-même, vous ne pouvez faire le bonheur de la France sans moi. Hâtez-vous donc. » En même temps, monsieur le comte d'Artois envoyait de Londres la duchesse de Guiche, femme pétrie de grâce et d'esprit, pour ouvrir de son côté une négociation parallèle par la voix de Joséphine, réputée l'ange tutélaire des royalistes et des émigrés. Elle obtint des entrevues, et j'en fus instruit par Joséphine elle-même, qui, d'après nos conventions, cimentée par 100 000 francs par jour, me tenait au courant de ce qui se passait dans l'intérieur du château. J'avoue que je fus piqué de n'avoir reçu de Bonaparte aucune direction sur des circonstances aussi essentielles. Je me mis en œuvre, j'employai les grands moyens, et je sus d'une manière positive la démarche que l'abbé de Montesquieu avait faite auprès du consul Lebrun. J'en fis l'objet d'un rapport que j'adressai au premier consul, où je parlais également de la mission et des démarches de la duchesse de Guiche. Je lui représentai qu'en tolérant de pareilles négociations, il faisait soupçonner qu'il cherchait à se ménager dans les revers un moyen brillant de fortune et de sécurité, et qu'il se méprenait par de faux calculs, si toutefois un cœur aussi magnanime que le sien pouvait s'arrêter à une politique si erronée, qu'il était essentiellement l'homme de la Révolution et ne pouvait être que cela, et que dans aucune chance les Bourbons ne pourraient remonter sur le trône qu'en marchant sur son propre cadavre. Ce rapport, que j'eus soin de rédiger et d'écrire moi-même, lui prouva que rien sur les secrets et la sûreté de l'État ne pouvait m'échapper. Il fit l'effet que j'attendais, c'est-à-dire une vive impression sur l'esprit de Bonaparte. La duchesse de Guiche fut congédiée, avec l'ordre de repartir sans délai pour Londres, et le consul Lebrun fut tancé pour s'être chargé par une voie détournée d'une lettre du roi. Mon crédit prit dès lors l'assiette qui convenait à la hauteur et à l'importance de mes fonctions. D'autres scènes allaient s'ouvrir, mais des scènes de sang et de carnage sur de nouveaux champs de bataille. Moreau, qui avait passé le Rhin le 25 avril, avait déjà défait les Autrichiens dans 3 rencontres avant le 10 mai, quand Bonaparte, du 16 au 20, dans une entreprise digne d'Hannibal, passa le Grand Saint-Bernard à la tête du gros de l'armée de réserve. Surprenant l'ennemi inattentif ou abusé, qui s'obstinait sur le Var et Vergennes à envahir la frontière de la France, il se dirige sur Milan par le Val d'Oste et Puymont et vient couper les communications à l'armée autrichienne commandée par Melas. L'Autrichien déconcerté se concentre pourtant sous le canon d'Alexandre au confluent du Tanaro et de la Bormida et marche à la suite de quelques défaites partielles courageusement au-devant du premier consul qui, de son côté, arrivait sur lui dans la même direction. L'événement décisif se préparait et laissait tous les esprits en suspens. Les sentiments et les opinions fermentaient dans Paris, particulièrement dans les deux partis extrêmes, le populaire et le royaliste. Les républicains modérés n'étaient pas moins émus. Ils voyaient, avec une sorte de défiance, à la tête du gouvernement, un général plus enclin à se servir du canon et du sabre que du bonnet de la liberté et de la balance de la justice. Les mécontents nourrissaient l'espoir que celui qu'ils appelaient déjà le Cromwell de la France serait arrêté dans sa course et qu'élevé par la guerre, il périrait par la guerre. On était dans ces dispositions quand, dans la soirée du 20 juin, arrivèrent deux courriers du commerce avec des nouvelles de l'armée annonçant que le 14 à 5 heures du soir, la bataille livrée près d'Alexandrie avait tourné à l'avantage de l'armée consulaire qui était en retraite, mais qu'on se battait encore. Cette nouvelle, répandue avec la rapidité de l'éclair dans toutes les classes intéressées, produisit sur les esprits l'effet de l'étincelle électrique sur le corps humain. On se cherche, on se rassemble, on va chez Chénier, chez Courtois, à la Coterie Stahl, on va chez Sieyès, on va chez Carnot. Chacun prétend qu'il faut tirer de la griffe du Corse la République qu'il met en péril, qu'il faut la reconquérir plus libre et plus sage. Qu'il faut un premier magistrat, mais qui ne soit ni dictateur arrogant, ni empereur des soldats. Tous les regards, toutes les pensées se tournent vers Carnot, ministre de la guerre. J'apprends à la fois la nouvelle et la fermentation qu'elle occasionne. Je cours à l'instant chez les deux consuls et je les trouve consternés. Je m'attache à remonter leur morale. Mais en rentrant chez moi, je l'avoue, ma tête eut besoin de toute sa force. Mon salon était plein, je n'eus garde de me montrer, on vient assiéger mon cabinet, en vain, je ne veux voir que des intimes, les chefs de file percent jusqu'à moi. Je me tus de dire à tout le monde qu'il y a de l'exagération dans les nouvelles, que c'est peut-être même une combinaison d'agiotage, que sur les champs de bataille, d'ailleurs, Bonaparte a toujours fait des miracles. Attendez surtout, point de légèreté, point d'imprudence, ajoutai-je, point de propos envenimés, et rien d'ostensible ni d'hostile. Le lendemain, le courrier du premier consul arrive, chargé des lauriers de la victoire. Le désenchantement des uns ne peut étouffer l'ivresse générale. La bataille de Marengo, telle la bataille d'Actium, fait triompher notre jeune triumvir et l'élevait au faîte du pouvoir, aussi heureux mais moins sage que l'Octave de Rome. Il était parti le premier magistrat d'un peuple encore libre, il allait reparaître en conquérant. On eût dit en effet qu'à Marengo, il avait moins conquis l'Italie que la France. De cette époque date le premier essor de cette flatterie dégoûtante et servile dont tous les magistrats, toutes les autorités l'enivrèrent pendant les 15 années de sa puissance. On vit un de ses conseillers d'État, nommé Roederer, faisant déjà de son nouveau maître une divinité, lui appliquer dans un journal le vers si connu de Virgile, Deus nobis haec otia fit. Je prévis les suites fatales qu'aurait pour la France et pour son chef cette tendance adulatrice indigne d'un grand peuple, mais l'ivresse était à son comble et le triomphe complet. Dans la nuit du 2 au 3 juillet arrive le vainqueur. Je remarquai dès l'abord sur ses traits quelque chose de contraint et de morose. La soirée même, à l'heure du travail, entrant dans son cabinet, il jette sur moi un regard sombre et se répand en éclats. « Eh bien, on m'a cru perdu et on voulait essayer encore du comité de salut public. Ah, je sais tout, et c'était des hommes que j'ai sauvés, que j'ai épargnés. Me croit-il un Louis XVI? Qu'ils osent et ils verront. Hein, qu'on ne s'y trompe plus. Une bataille perdue est pour moi une bataille gagnée. Je ne crains rien. Je ferai rentrer tous ces ingrats, tous ces traîtres dans la poussière. Je saurai bien sauver la France en dépit des factieux et des brouillons. Je lui représentai qu'il n'y avait eu qu'un accès de fièvre républicaine excité par un bruit sinistre, bruit que j'avais démenti et dont j'avais atténué les effets. Que mon rapport aux deux consuls, dont je lui avais transmis la copie, le mettait à même d'apprécier à sa juste valeur ce petit mouvement de fermentation et d'égarement. qu'enfin le dénouement était si magnifique et la satisfaction si générale qu'on pouvait bien supporter quelques ombres qui faisaient encore mieux ressortir l'éclat du tableau. « Eh, vous ne me dites pas tout, » reprend-il. « Ne voulait-on pas mettre Carnot à la tête du gouvernement ?» Carnot qui s'est laissé mystifier aux 18 fructidors, incapable de garder 2 mois l'autorité, et qu'on ne manquerait pas d'envoyer périr à Sinnamary. J'affirmais que la conduite de Carnot avait été irréprochable, et j'observais qu'il serait bien dur de le rendre responsable de projets extravagants enfantés par des têtes malades et dont lui, Carnot, n'avait eu aucune idée. Il se tut, mais l'impression était profonde. Il ne pardonna point à Carnot, qui, à quelque temps de là, se vit dans la nécessité de résigner le portefeuille de la guerre. Vraisemblablement, j'aurais partagé sa disgrâce anticipée si Cambacérès et Lebrun n'avaient pas été les témoins de la circonspection de ma conduite et de la sincérité de mon dévouement. Plus ombrageux en devenant plus fort, le premier consul s'arma de précautions et s'entoura d'un appareil plus militaire. Ses préventions et ses défiances se portaient plus particulièrement sur ceux qu'il appelait des obstinés, soit qu'ils voulussent rester attachés au parti populaire, soit qu'ils ne s'exhalassent qu'en plainte à la vue de la liberté mourante. Je proposais des moyens doux pour ramener au giron du gouvernement des hommes aigris. Je demandais la faculté de gagner les chefs de file par des pensions, des largesses ou des places. J'eus carte blanche pour l'emploi des moyens pécuniaires, mais mon crédit n'alla pas jusqu'à la distribution des emplois et des faveurs publiques. Je vis clairement que le premier consul persistait dans le système de n'admettre qu'en minorité les républicains dans les hauts emplois et dans ses conseils, et qu'il voulait y maintenir en force les partisans de la monarchie et du pouvoir absolu. À peine si j'avais eu le crédit de faire nommer une demi-douzaine de préfets. Bonaparte n'aimait pas le tribunat, parce qu'il y avait là un noyau de républicains tenaces. On savait qu'il redoutait surtout les écervelés et les enragés désignés sous le nom d'anarchistes, hommes toujours prêts à servir d'instruments au complot et aux révolutions. Ses défiances et ses alarmes étaient excitées par les hommes qui l'entouraient et le poussaient à la monarchie, tels que Portalis, Lebrun, Cambacérès, Clarc, Champagny, Fleurieu, Duchâtel, Jolivet, Besnec, Emery, Roderer, Créter, Régnier, Chaptal, Dufresne et tant d'autres. Qu'on y ajoute les rapports secrets et les correspondances clandestines que lui adressaient, dans le même sens, des hommes qui en avaient reçu la mission, et qui suivait la tendance ou le torrent de l'opinion du jour. Je n'y étais pas épargné, j'étais en butte aux insinuations les plus malveillantes. Mon système de police y était souvent décrié et dénoncé. J'avais contre moi Lucien, alors ministre de l'Intérieur, qui avait aussi sa police particulière. Essuyant parfois des reproches du premier consul sur des faits qu'il croyait ensevelis dans l'ombre, il me soupçonnait de le faire épier pour le compromettre dans mes rapports. J'avais l'ordre formel de ne rien sceller tant sur les bruits populaires que sur les bruits de salon. Il en résultait que Lucien, abusant de son crédit et de sa position, tranchant du rouet, enlevant des femmes à leurs maris, trafiquant des licences d'exportation de grains, était souvent l'objet de ces bruits et de ces rumeurs. Comme chef de la police, je ne devais pas dissimuler combien il importait que les membres de la famille du premier consul fussent irréprochables et ne s'attirassent pas le décrit public. On sent dans quel conflit je dus me trouver engagé. J'avais heureusement dans mes intérêts Joséphine. Je n'avais pas Duroc contre moi, et le secrétaire intime m'était dévoué. Cet homme plein d'habileté et de talent, mais dont l'âpreté pécuniaire causa bientôt la disgrâce, s'est toujours montré si cupide qu'il n'est pas besoin de le nommer pour le désigner. Dépositaire des papiers et des secrets de son maître, il découvrit que je dépensais 100 000 francs par mois pour veiller incessamment sur les jours du premier consul. L'idée lui vint de me faire payer les avis qu'il me donnerait pour me mettre à même de remplir le but que je me proposais. Il vint me trouver et m'offrit de m'informer exactement de toutes les démarches de Bonaparte, moyennant 25 000 francs par mois. Il me présenta cette offre comme une économie de 900 000 francs par année. Je n'eus garde de laisser échapper l'occasion de prendre à mes gages le secrétaire intime du chef de l'État qu'il m'importait tant de suivre à la piste pour connaître ce qu'il avait fait comme ce qu'il devait faire. La proposition du secrétaire fut acceptée et chaque mois, très exactement, il recevait en blanc son mandat de 25 000 francs pour faire retirer à la caisse la somme promise. J'eus de mon côté à me louer de sa dextérité et de son exactitude, mais je me gardais bien d'économiser sur les fonds que j'employais à garantir la personne de Bonaparte de toute attaque imprévue. Le château seul m'absorbait plus de la moitié de mes 100 000 francs disponibles chaque mois. À la vérité, par là, je fus très exactement informé de ce qu'il m'importait de savoir, et je pus contrôler mutuellement les informations du secrétaire par celles de Joséphine, et celles-ci par les rapports du secrétaire. Je fus plus fort que tous mes ennemis réunis ensemble. Que fit-on alors pour me perdre? On m'accusa formellement auprès du premier consul de protéger les républicains et les démagogues. On alla jusqu'à désigner le général Parrain, qui m'était personnellement attaché, comme l'intermédiaire dont je me servais pour endoctriner les anarchistes et leur distribuer de l'argent. Le fait est que j'usais de toute mon influence ministérielle pour déjouer les projets des écervelés, pour calmer leurs ressentiments, pour les détourner de former aucun complot contre le chef de l'État, et que plusieurs m'étaient redevables de secours et d'avertissements des plus salutaires. Je n'usais en cela que de la latitude qui m'était donnée dans mes attributions de haute police. Je pensais, et je pense encore, qu'il vaut mieux prévenir les attentats que d'avoir à les punir. Mais, à force de me rendre suspect, on finit par exciter la défiance du premier consul. Bientôt, imaginant des prétextes, il mutila mes attributions pour que le préfet de police fût chargé spécialement de la surveillance des enragés. Ce préfet, ancien avocat, homme avide, aveuglément dévoué au pouvoir, justice avant la Révolution, qui s'étant insinué avec adresse au bureau central, s'était fait nommer préfet de police après le 18 Brumaire, c'était Dubois. Pour se créer un petit ministère à part, il me suscitait des tracasseries sur les fonds secrets, et il fallut que je lui fisse sur la curée des jeux sa grosse part, sous prétexte que l'argent était le nerf de toute police politique. Mais plus tard, je parvins à le confondre dans l'emploi des fonds de son budget prélevés sur les vices bas et honteux qui déshonorent la capitale. Cependant, la maxime machiavélique « divide et impera » ayant prévalu, il y eut bientôt quatre polices distinctes, la police militaire du château, faite par les aides de camp et par Duroc, la police des inspecteurs de la gendarmerie, la police de la préfecture, faite par Dubois, et la mienne. Quant à la police du ministère de l'Intérieur, je ne tardais pas à l'anéantir, comme on le verra bientôt. Ainsi, tous les jours, le premier consul recevait quatre bulletins de police séparés, provenant de sources différentes et qu'ils pouvaient comparer entre eux, sans compter les rapports de ses correspondants affiliés. C'est ce qu'il appelait « tâter le pouls à la République ». On la regardait comme bien malade dans ses mains. Tout ce que j'aurais pu faire pour la soutenir aurait tourné contre elle. Mes adversaires travaillaient à me réduire à une simple police administrative et de théorie, mais je n'étais pas homme à le souffrir. Le premier consul lui-même, je dois lui rendre cette justice, sut résister avec fermeté à toutes les tentatives de ce genre. Il dit qu'en voulant ainsi le priver de mes services, on l'exposerait à rester désarmé en présence des contre-révolutionnaires, que personne mieux que moi ne faisait la police des agents de l'Angleterre et des Chouans, et que mon système lui convenait. Je sentis pourtant que je n'étais plus qu'un contrepoids dans la machine du gouvernement. D'ailleurs, sa marche était subordonnée plus ou moins au cours des événements publics et aux chances de la politique.